Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu, c'est autre chose. C'est pour parler, certainement, c'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, émission un peu spéciale aujourd'hui. Nous ne recevons pas un romancier, mais un traducteur de génie dans les deux sens du terme, magnifique écrivain anglais Dickens et superbe traduction. Ensuite, visite de bibliothèque, celle de Stéphane Escher, le chanteur, oui oui. Et puis à la fin de l'émission, je réunis tout le monde, libraire compris, on parlera polar, bande dessinée et roman. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Et aujourd'hui, dans La Voix est libre, je reçois Charles Dickens, enfin presque, son traducteur. Jean-Jacques Greff, les éditions Tristram, propose une nouvelle traduction d'un des romans majeurs de l'œuvre du maître britannique, De Grandes Espérances, Great Expectations, pardon pour l'accent, publié en 1860. En feuilleton, c'est l'histoire de Philippe Pirrip, dit Pip, un orphelin élevé par sa sœur à la dure dans un village du Kent, et le gentil Joe, le forgeron. C'est Pip qui raconte, on est au début du 19e et on suit ses aventures jusqu'à la moitié du siècle, et ça commence fort. Pip est confronté à un bagnard évadé, genre Jean Valjean, mais qui ressemble à un ogre. Mais un jour, il apprend qu'un bienfaiteur lui donne de grandes espérances, c'est-à-dire de l'argent. Il faut se rendre à Londres. Bonjour Jean-Jacques Greff.
Bonjour.
Vous êtes donc le traducteur de Charles Dickens. C'est quand même incroyable. Vous aviez traduit il y a quelque temps L'île au trésor des Stevenson. Comment vous choisissez, vous jetez votre dévolu sur tel ou tel chef-d'œuvre? Quelle arrogance quand même.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une randonnée à pied dans les Cévennes.
Ah, sur le chemin de Stevenson.
Voilà, ici on se trouve rue des Cévennes, en fait, Europe 1, c'est rue des Cévennes. Ouais, ouais.
J'ai fait ce chemin aussi, hein. Le voyage bien. Avec un âne, voilà, dans les Cévennes, ça, de Stevenson, voilà, qu'il raconte.
Exactement.
Et c'est devenu une autoroute à randonneurs, parce que tout est...
Oui.
Et en plus, il y a eu le film là récemment, avec Antoinette, et donc tout le monde marche sur ce chemin de Stevenson.
Quand j'y étais, c'était pas l'autoroute, hein. c'était hors saison, c'était tranquille. Et... de temps en temps, accroché à un arbre, il y a une pancarte avec un extrait de son livre « Mes 12 jours dans les Cévennes » avec l'ânesse Modestine. Et bon, c'était amusant à lire et au fond, ça m'a donné envie de lire non seulement le récit qu'il a fait de son trek dans les Cévennes, mais aussi de relire « L'île au trésor » que j'avais lu il y a très très longtemps. Et en lisant « L'île au trésor », j'ai vu que c'était un livre où il y avait une création de langage particulier pour les pirates, qui sont des gens très grossiers et ignorants et qui parlent très mal. Ils parlent un très vilain anglais, avec une très mauvaise grammaire et des mots inventés. Enfin. Et ben, j'ai pensé que mon expérience de la lecture des textes en français, je me suis dit, ça a peut-être pas été bien traduit. Parce que les traducteurs, ils sont timides dans l'ensemble. Enfin, pour les livres anciens comme ça, hein. Peut-être ceux qui traduisent des livres d'aujourd'hui, c'est différent. Donc j'ai regardé un peu les traductions qui existaient et j'ai vu que le texte de Stevenson n'y était pas. Les pirates, ils ne parlaient pas comme des pirates.
C'est un peu académique,
donc,
quoi.
Oui, voilà. Donc je l'ai fait, quoi. J'ai fait parler les pirates comme des pirates et en inventant du mauvais français, des fautes de grammaire, et pour que je ressente... en lisant le texte français, la même chose que quand je lis le texte en anglais.
C'est affaire de sensation, tout ça.
Voilà, oui.
Et Dickens, alors? Pourquoi celui-là?
L'île au trésor est paru chez Tristram, et puis il y a eu, je ne sais pas, une sorte de petit succès. En tout cas, j'ai été invité, interviewé, etc. Et je me suis dit, voilà, maintenant que j'ai commencé ça, il faut que je continue et il faut que je traduise autre chose. Alors, je suis tombé par hasard sur... un livre de Jane Austen, Pride and Prejudice. Et je me suis dit, oui, c'est pas mal. Je vais essayer ça. Donc, je l'ai traduit. Et puis, on ne s'est pas mis d'accord avec l'éditeur. On n'était pas d'accord sur la manière de présenter le texte. Donc, je le garde dans un coin. J'espère qu'il paraîtra un jour. Et j'ai cherché d'autres livres. Et j'ai commandé un livre inédit sur Amazon, un livre américain. Et il n'est jamais arrivé chez moi. J'ai reçu... un ornement de jardin qui était destiné à une dame de Calgary à la place. Enfin bon, je me dis ça, c'est un signe du destin. C'est un signe qu'il faut que j'arrête de faire l'idiot et que je traduise Dickens. Parce que Dickens, quand j'ai vu que Stevenson était mal traduit, c'est parce que j'ai pensé à Dickens, dont j'ai toujours pensé qu'il était mal traduit et que les gens qui lisaient Dickens en français, ils ne lisaient pas Dickens.
Ils croyaient Dickens. C'est pour ça que je parlais un peu de manière provocatrice, bien sûr, pour faire un effet d'arrogance tout à l'heure. C'est que, c'est comme publier un roman d'ailleurs, c'est considérer que bah, ce sera la meilleure proposition et que c'est valable. Mais en fait, vous allez me dire que c'est juste une proposition, j'imagine. Oui.
Moi, je vais vous parler un peu de traduction. Il y a un précédent historique. En Angleterre, vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y avait une traductrice formidable qui s'appelait Constance Garnett. Et elle traduisait du russe, en fait. Elle a traduit tous les romans russes. Tous les romans de Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, les nouvelles de Tchekhov, etc. Et ces traductions étaient parfaites. Et personne d'autre traduisait. Mais peu à peu, au cours du XXe siècle, il y a d'autres gens qui se sont lancés dans la traduction. Alors on dit, mais pourquoi vous traduisez? C'est tellement bien, Constance Garnett, etc. Et donc, il y a des gens qui ont dit, oui, c'est très bien. Mais il y a juste un problème, c'est que l'auteur n'y est pas. Il y a un russe, un poète russe qui a dit, qui habite aux États-Unis, il a dit les Américains, ils croient que Tolstoï et Dostoïevski, c'est pareil. Ah oui. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout pareil.
Mais il disait, la même musique.
Il disait oui, parce qu'ils lisent pas Tolstoï et Dostoïevski, ils lisent Constance Garnett.
Il faut que je donne un exemple pour qu'on comprenne bien si les auditeurs vous ont pas lu. L'île au trésor, par exemple, je me souviens, il y a un pirate qui disait il faudriez m'appeler. Vous changez comme ça parfois même les conjugaisons. Et là, je cite un extrait des Grandes Espérances. C'est Joe qui parle, donc le brave homme. Elle s'est assise et elle s'est levée et elle a attrapé chatouilleur. Il y a une sorte comme ça de patois. Et plus loin, on peut lire « Vous ferreriez une fameuse paire sans moi. » Vous modifiez même les conjugaisons et c'est pour que ça corresponde à l'esprit du personnage.
Pour l'exemple de Faudrier, c'est bien clair. C'est que c'est déjà dans Stevenson. Stevenson, il dit... How you might call me. You might, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est you might, et ce qui existe, c'est you ought. Vous voyez, il a fait un mot valise. Hein? Donc, j'ai fait un mot valise avec faudriez, il faudrait, ou bien comment vous devriez. Vous voyez, j'ai fait faudrait.
Ce qui n'existait pas dans les précédentes traductions.
Non, non.
Il faudrait.
Non, il se donnait pas le mal de faire ça. Alors, peut-être que je faisais peut-être ce genre de choses à l'époque très lointaine où j'ai été. Rédacteur dans la publicité, et on faisait comme ça, on jouait avec les mots éventuellement. Mais en tout cas, c'est ce que fait Dickens, c'est ce que fait Stevenson. Donc je le fais aussi.
Bon, il faut qu'on en parle aussi tout à l'heure, on en dira un mot, mais vous avez été d'abord polytechnicien, ensuite vous avez été ingénieur, vous avez travaillé dans la publicité, puis ensuite 30 ans de journalisme chez Marie Claire, et publié des livres et des traductions. Vous avez quand même un parcours très étonnant. On vous retrouve dans un instant, Jean-Jacques Rey.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, La Voix est libre qui a l'honneur cette semaine de recevoir Jean-Jacques Greff, traducteur de Charles Dickens. Il traduit De Grandes Espérances aux éditions Tristram. C'est incroyable quand même de retraduire aujourd'hui Dickens. Jean-Jacques Greff, on commence par le titre, De Grandes Espérances. En anglais, c'est juste Great Expectations. Comment vous décidez de mettre deux?
Alors, le livre est connu en français avec ce titre-là. Donc je me suis demandé, en effet, j'aurais pu mettre Grandes Espérances. Mais c'est quand même...
Il y a Les Grandes Espérances aussi, il y a cette version-là.
Ah, peut-être, oui. Il me semble que Deux Grandes Espérances, ça correspond mieux à Great Expectations. Mais en effet, ça se discute.
C'est intéressant parce qu'en vous écoutant, moi quand je vous lis, j'avais lu L'île au trésor aussi, je m'étais dit... Pouh, à chaque page, à chaque ligne, il doit se faire des nœuds dans le cerveau et tout, ça doit être compliqué. Et là, vous me répondez, oui, oh, bon, j'aurais pu, puis finalement, non. Il y a un moment où vous êtes obligé de lâcher prise et de vous dire, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça.
Oui.
C'est comme ça que ça se passe, vos traductions, ou alors vous êtes très comme ça, laborieux à discuter chaque ligne, chaque mot.
Non, je ne discute pas chaque ligne, chaque mot, mais j'essaye de rendre à peu près la même chose en français que ce que je ressens et que quand je lis en anglais.
De Grandes Espérances, bizarrement, en France, mais c'est peut-être mon ressenti, hein, c'est pas forcément le préféré. Il y a David Copperfield, il y a Oliver Twist avant. Alors que pour les étrangers, pour les anglo-saxons en général, à ceux à qui je pose la question, votre livre préféré, Great Expectations revient souvent.
Oui,
pourquoi
oui.
vous avez choisi celui-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre-là, de ce roman-là?
Je peux dire qu'avant ça, j'ai traduit David Copperfield et c'est un livre deux fois plus gros. Celui-là, il est déjà gros, vous voyez, vous l'avez devant vous, ça fait déjà un gros livre. Donc David Copperfield, c'est très gros, Et la réalité de l'édition en France ou ailleurs, c'est qu'on regarde le prix du papier, des choses comme ça. Et un très gros livre, on est obligé de le vendre plus cher et on ne sait pas si on en vendra beaucoup. Enfin bon. Bon, bah, du coup, après avoir traduit David Copperfield, j'ai traduit De Grandes Espérances, qui est plus petit, c'est quand même un gros livre. Et Dickens lui-même, son préféré, c'était David Copperfield, qui est très autobiographique. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment mieux De Grandes Espérances parce que c'est un livre qui a une histoire particulière. Dickens, dans son époque de maturité, il faisait des très gros livres qui paraissaient en feuilleton longtemps, pendant un an ou plus. C'est des très gros livres et ils sont très très bien, surtout quand on aime déjà Dickens, ce qui est le cas pour beaucoup d'Anglais ou d'Américains. Parce que sinon, il y a beaucoup d'histoires à la fois, un très grand nombre de personnages. Enfin, c'est comme les grands romans du 19e siècle, comme Les Misérables, Balzac, ou des choses comme ça, ou Guerre et Paix, etc. Mais là, il était dans une urgence parce qu'il publiait un magazine. Ah, il était son propre éditeur, c'est pratique ça. Il publiait un magazine et un feuilleton et il y avait un roman par épisode de quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre a fait faux bond. Et il fallait vite écrire quelque chose. Et donc, il s'est lancé dans De Grandes Espérances, qui est un livre plus court et plus resserré que les autres, et en même temps plus fort parce qu'il est plus resserré.
Mais qui embrasse quand même quasiment toute la vie.
Ah oui.
Et on se balade beaucoup.
Il y a quand même beaucoup de personnages.
Voilà, mais c'est ça ce que je voulais dire, c'est que donc c'est l'histoire de cet orphelin. Finalement, il apprend, donc il vit dans un milieu très dur, hein, élevé par sa sœur, qui l'élève à coups de trique, vraiment. Heureusement, il y a quand même quelques personnages positifs, comme ça, il y a le forgeron, qui est un brave homme, Joe, et puis il y a ce bagnard évadé qu'il rencontre au début, qui fait très peur au début, mais qui va s'avérer être plutôt...
Ah, faut pas le dire.
Non, bon, chut. Mais toujours est-il qu'un jour, il apprend qu'il va pouvoir accéder à autre chose, parce qu'à Londres, l'attend De Grandes Espérances.
C'est ça. De Grandes Espérances, c'était une sorte de terme juridique, en même temps que ça a le sens de Grandes Espérances, mais c'était un terme juridique pour un orphelin de bonne famille qui devrait hériter de ses parents, qui hérite de ses parents, mais on ne va pas lui donner l'argent quand il a 8 ans ou 10 ans. L'argent est mis dans un compte en banque et il a un tuteur qui s'occupe de lui jusqu'à l'âge de sa majorité. Donc il a de grandes espérances au sens où, quand il atteint sa majorité, il reçoit une énorme somme d'argent. Donc c'est le cas de Pip. Il attend une grosse somme d'argent qui est promise et donc il y a un avocat qui est son tuteur et qui lui donne tout de même de l'argent chaque mois. Alors il fait des études. Le but, en gros, c'est qu'il devienne un gentleman. Parce qu'il n'est pas né gentleman, il est né apprenti forgeron, en quelque sorte.
Et c'est un transfuge de classe.
Voilà, c'est une ascension sociale. Et c'est la même chose qui se passe dans David Copperfield et aussi, d'une certaine façon, dans Oliver Twist. C'est-à-dire qu'on a des petits orphelins. Oliver Twist, c'est un pauvre complet. Mais sans le savoir, il appartient à une bonne famille et ça s'arrange miraculeusement. Tandis que David Copperfield, il est fils de gentleman, mais il y a des méchants qui le privent de ce à quoi il a droit, et il va s'en sortir lui-même à la force du poignet. Enfin, il va, bon. Tandis que Pip, lui, c'est un vrai pauvre au départ, il n'appartient pas à une bonne famille, et c'est un genre de miracle qui fait qu'il va monter dans l'échelle sociale. Et c'est un livre très différent des autres, parce que Oliver Twist, c'est un gentil petit garçon qui n'a pas beaucoup de personnalité. Il a juste des malheurs, quoi. Il est très malheureux, puis peu à peu, ça va s'arranger. Et David Copperfield, il a du caractère, mais tout va de mieux en mieux pour lui et tout est à peu près normal. Tandis que Pip, c'est quelqu'un qui va se laisser griser par ses grandes espérances et par le fait qu'il est en train de devenir un gentleman, c'est-à-dire de faire des études intéressantes, d'avoir assez d'argent pour s'acheter des vêtements et pour recevoir des gens à dîner, etc. Et peu à peu, il va mal se conduire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va se mettre à être comme un gentleman, et les gentlemen, ils méprisaient les pauvres forgerons. Et lui, il va se mettre à avoir honte de Joe, qui était son bon ami, son père, enfin, ou son grand frère, et donc il se conduit mal. Peu à peu, ça s'arrange parce qu'à la fin, ça ira mieux. Il va faire amende honorable et il va pas recevoir sa fortune. Donc,
racontez pas tout.
Bon, d'accord,
mais c'est intéressant. Je vous écoutais là et à chaque fois, Vous allez chercher chez David Copperfield, chez Oliver Twist, pour le lier à Pip, qui est le héros des Grandes Espérances.
Ah oui.
Mais et quand on lit, c'est incroyable aussi, et c'est la marque du génie. Mmh. C'est-à-dire que toute l'œuvre est liée. Et là, on a encore un exemple où les espérances sont peut-être des illusions. Et surtout, surtout, que la classe sociale, au fond, c'est pas peu importe la classe sociale, mais c'est simplement qu'on s'aperçoit à chaque fois chez Dickens que ce qui compte d'abord, c'est le cœur, quoi, et c'est la force de caractère de l'homme ou de la femme. Enfin, c'est le cœur qui compte d'abord.
Alors, la classe sociale compte au sens où, dans ce livre, comme dans David Copperfield, mais pas dans Oliver Twist, mais dans ce livre, comme les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, c'est les bons, entre guillemets. Mm. Vous voyez, c'est vraiment des... comme Joe, donc. Et les gens qui appartiennent aux bonnes couches de la société, certains sont beaucoup moins bien, moralement, et c'est le cas aussi dans d'autres livres.
Une petite pause et on retrouve Pip dans un instant. Mm-hmm.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Jean-Jacques Greff, le traducteur de Charles Dickens, qui retraduit De Grandes Espérances aux éditions Tristram. 600 pages avec le compagnonnage d'un génie. Il faut du temps, j'imagine, il faut de la patience, mais il y a aussi quelques astuces et quelques choix que vous faites, Jean-Jacques Greff. Par exemple, il y a quelques mots anglais qui reste comme ça.
Ah,
est-ce
oui.
que c'est parce que vous considérez qu'aujourd'hui, dans notre époque, on peut se permettre, que tout le monde parle anglais à peu près, c'est ça?
Oui, écoutez, en français, on dit...
Il y a Miss, par exemple.
Oui, on dit Miss France. Hein, si on dit Miss France, je vois pas pourquoi je dirais pas Miss, hein, plutôt que Mademoiselle.
Et ça donne une couleur plus anglaise.
Oui, il y a une particularité de la différence entre l'anglais et le français, c'est que l'anglais est plus concis dans l'ensemble. C'est-à-dire, quand on traduit un livre anglais, eh bien, le livre français, il est plus gros que le livre anglais. Donc, si on a le choix entre un mot court et un mot long, il vaut mieux mettre le mot court pour éviter ça. Donc, Miss, c'est plus court que Mademoiselle. Et bon.
Il y a aussi le problème du vouvoiement et du tutoiement. Comment vous choisissez ?
Alors, regardez, par exemple, je reviens encore à David Copperfield. Dans David Copperfield, quand il est enfant, il rencontre une petite fille de son âge qui s'appelle Emily. C'est Emily, un peu abrégée. Et il devient copain avec elle. Mais ils ne vont pas se vouvoyer. Vous voyez, deux enfants de 6 ans, ils se tutoient en français. S'ils se vouvoient, du coup, ça introduit quelque chose qui rend le texte moins abordable qu'il est en anglais. Et bah, c'est pareil pour Pip. Bah, avec son copain Joe, bah, il se tutoie. Alors, dans certains cas, eh bien, il peut, lui, vouvoyer quelqu'un qui le tutoie. Ça peut arriver, je ne sais pas s'il y a dans ce roman-là, ça se passe dans David Copperfield, il a un copain qui est déjà un gentleman et David non. Et David, il le vouvoie et l'autre le tutoie.
Ouais. Donc, parce que ça dépend aussi de la classe sociale, on y revient.
Oui, oui,
de on la parle classe sociale aussi. On parle pas un gamin aussi, de la même façon
dans
une classe sociale inférieure que dans une classe sociale de Londres.
Donc c'est des choix un peu délicats. Donc parmi les traducteurs, parce qu'il y a plusieurs traductions qui ont précédé la mienne, donc il y en a certaines qui s'en tiennent à vous tout le temps et d'autres qui alternent entre vous et tu selon les circonstances.
Mais d'ailleurs, est-ce que vous allez visiter les autres traductions ou vous évitez absolument ?
Ah non, je les regarde. Elles me servent, hein, parce que je ne suis pas infaillible. Quelquefois, je me trompe ou je ne fais pas attention. Alors, je regarde la traduction, tiens, il y a telle... Je n'ai pas vu cette phrase-là, et puis je regarde, ah mais si, elle y est. Donc, non, ça peut être utile, je vois quelle partie ils ont pris, bien sûr.
Et parfois, j'imagine que vous rendez à César, vous vous dites, ah bah oui, tiens, là, oui, je n'ai pas mieux.
Alors, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, parce que...
On pourrait considérer que voilà, c'est la phrase ultime, qu'on ne peut pas la traduire mieux que ça.
Alors, on peut aller plus loin dans ce sens-là. On pourrait se dire, je passe tout dans Google Translate et puis ce qui ne va pas bien, je l'arrange.
Mm.
Hein, mais non, je ne fais pas ça non plus. Mais je regarde quand même que les choix faits par Google Translate.
Je relis un petit extrait qu'on comprenne bien comment vous fonctionnez et comment vous révolutionnez un peu cet art de la traduction aussi.
Non.
Chers garçons et camarades de Pip, je ne vais pas pour de vous raconter ma vie comme une chanson ou un livre de contes. Mais pour vous la donner courte et commode, je la mets tout de suite en une bouchée d'anglais. C'est pas du tout français. Vous dites non. Mm-hmm. Mais en fait, il n'y a aucune traduction qui fait ça. C'est toujours linéaire et remis en bon français. Vous faites du mauvais français.
Oui.
C'est en ça que vous révolutionnez quand même l'idée.
Si Dickens fait du mauvais anglais, je fais du mauvais français,
sûr.
C'est normal.
Bien sûr, ça paraît logique. Oui, quand vous le faites, c'est toujours pareil. Une fois qu'il y en a un qui commence à le faire, on se dit que c'était une bonne idée. Mais est-ce qu'il y a une jubilation aussi de mal écrire?
C'est amusant. Oui, j'aime bien ça. Oui, oui, bien sûr. C'est de la création, si vous voulez. Tandis que la traduction standard, c'est moins de la création. Tandis que là, on est obligé d'inventer un peu. Oui, c'est amusant.
Est-ce que vous vous surprenez à la fin de la traduction ou pendant votre travail à mal parler, à faire des plis de langage?
Peut-être que je parle mal indépendamment des traductions, hein, ça m'arrive sûrement.
Non, mais parce que moi, avec L'île au trésor, j'ai dit pendant longtemps, après je disais faudrier ou des trucs comme ça.
Oui, oui.
C'est parce que c'est pratique en fait, et c'est l'art du langage.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'on le modèle à notre intention.
Oui, oui.
Finalement, on en fait ce qu'on veut.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez le trac quand vous commencez à vous attaquer à une montagne comme ça?
Ah non, ça pas du tout, non.
Parce qu'il y a une responsabilité quand même.
Oui.
Vous le laissez pour les gamins français qui vont découvrir Dickens, ça sera peut-être avec votre traduction. C'est important.
Je vois ça comme, mettons un sculpteur qui fait une sculpture. Ce qui est intéressant, c'est de la faire et puis qu'elle existe. Au départ, elle n'existe pas, puis ensuite, elle existe. Peut-être qu'il s'en fiche de qui va la regarder. Peut-être que personne ne la regardera, mais elle existe. Vous voyez, c'est ça. C'est de fabriquer, c'est un artisanat. C'est fabriquer quelque chose. Alors, j'ai quand même écrit beaucoup de romans. Donc, c'est plus vrai quand on écrit un roman que pour une traduction. Mais c'est quand même pareil.
Alors justement, comment vous en arrivez à la traduction? Vous êtes polytechnicien, ingénieur pendant 2-3 mois, vous m'avez dit.
Oui.
Et ensuite, vous avez fait de la publicité quelques temps, et puis journaliste à Marie-Claire.
Oui.
Et puis tout à coup, vous devenez traducteur, mais sans avoir particulièrement fait un cursus d'anglais, quoi.
Ah oui.
C'est pas utile.
Non. Alors, dans les différents métiers que j'ai eu l'occasion d'exercer, le fait que je connaisse l'anglais m'a toujours beaucoup servi. Donc j'ai toujours traduit dans la publicité, dans le magazine, j'ai toujours eu à traduire des choses parce que j'étais celui qui pouvait traduire, vous voyez.
Mmh.
En particulier dans la publicité, je suis arrivé dans la publicité à un moment où on commençait à avoir de la publicité à la télévision. Avant, il n'y en avait pas. Et les gens dans la création des agences, ils ne savaient pas trop comment faire. Et les clients étaient américains, vous voyez, c'était la lessive, Procter & Gamble, des choses comme ça. Et alors, ils nous envoyaient des spécialistes des États-Unis qui venaient faire des conférences. Alors, c'était des conférences en anglais. Et puis, moi, j'y allais, les autres, ils ne comprenaient rien. Donc, vous voyez, donc j'avais un avantage par le fait que je parlais anglais et il fallait traduire parfois de l'anglais. Et c'est pareil à Marie-Claire, je m'occupais de lire les journaux anglais, les journaux américains, etc., pour voir s'il y avait des idées intéressantes. Et donc... ça m'a toujours servi de traduire. Mais ensuite, à un moment, je faisais des sortes de manuels d'informatique. Donc, j'ai fait en anglais, puis il y a un éditeur anglais en français, puis un éditeur anglais nous a contactés. Alors, j'en ai fait en anglais. Enfin, je traduisais de l'anglais au français, puis du français à l'anglais. Enfin, donc, j'ai toujours traduit. Mais il y a une sorte de notion là-dedans qui est une notion de pédagogie, je dirais. J'étais toujours... étonné que les gens que je rencontre, en particulier mes collègues à Marie-Claire, qui avaient étudié l'anglais quand même pendant 7 ans, normalement, plus quelquefois, ne pouvaient pas lire un article de 3 lignes dans le New York Times. Vous voyez, ils venaient me voir, etc. Et donc, je me suis demandé comment faire pour que les gens qui ont étudié l'anglais pendant 7 ou 8 ans puissent lire des choses simples. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des textes qui soient en anglais progressifs, c'est-à-dire qu'ils commencent très simplement... et puis ils deviennent un peu plus difficiles, etc. Donc j'ai écrit des textes comme ça, puis j'ai parlé à un éditeur, je ne l'ai pas convaincu, enfin bon, c'est resté un peu dans mes tiroirs. Mais quand j'ai fait cette traduction de L'île au trésor, mon idée au départ, c'était de faire une sorte de logiciel bilingue. Donc le texte existait, enfin ça marchait sur l'iPad un peu, enfin bon, finalement je ne l'ai pas fait puisque j'ai trouvé un éditeur. Mais donc c'était pour aider les gens à apprendre à lire l'anglais, d'une certaine façon.
Et alors, c'est quoi le prochain?
En ce moment, je suis en train de traduire un de mes propres romans en anglais. J'en ai traduit une dizaine. Il y en a un qui est paru aux États-Unis. Et je fais dans l'autre sens.
C'est encore un autre exercice.
Oui, alors je ne sais pas s'il y aura un prochain. Les autres Dickens sont beaucoup plus gros, donc je ne sais pas si je me lance. On verra.
Pour l'instant, en tout cas, on peut lire « De grandes espérances » traduit par vous, Jean-Jacques Greff. C'est aux magnifiques éditions Tristram. Merci beaucoup Jean-Jacques Greff.
Merci.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Stéphane Escher.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre, l'heure de visiter une bibliothèque a sonné. Stéphane Escher, le grand Stéphane Escher, est suisse, comme vous le savez. Mais il sort un nouvel album, Aude, O-D-E. Il est déjà dans les meilleures ventes, j'ai vu. Mais surtout, il est passé pas très loin d'Europe 1 pour en parler. J'ai profité de l'occasion pour savoir de quel livre il se chauffe. Et c'est Stanislas Rigaud qui nous a abrités. Bonjour Stéphane Escher.
Bonjour.
Je rigole parce qu'on avait commencé l'interview avant de lancer la séquence.
Je ne suis pas très professionnel. Non, c'est mon premier interview littéraire que je fais.
Il va falloir le redire. C'est juste que je voulais dire qu'on est chez Stanislas Rigaud dans la librairie Lamartine parce que comme vous ne viviez pas à Paris, vous êtes suisse, en fait vous êtes de passage et moi je voulais faire votre bibliothèque et on a eu cette idée-là de revenir chez Stanislas qu'on fait de temps en temps. Et je vous ai dit, ramenez-moi quand même quelques livres. Mais bon, avec le voyage et tout, c'est compliqué. Donc vous avez nommé les livres et le Stan magique nous les a trouvés. Donc on va en parler tout de suite. Mais d'abord, je voulais que vous nous racontiez un peu comment c'est, si on était allé chez vous, les livres, ils sont rangés comment ? La bibliothèque, est-ce qu'elle est grande ?
Oui, j'ai toujours, partout où j'ai vécu, j'ai apprécié la bibliothèque. Déjà parce que ça sonne vraiment bien, si vous faites des disques dans des bibliothèques.
Ouais.
Parce que c'est, le mur devient
un
patchwork, absolument. Ce n'est pas la seule raison. C'est que j'ai quitté l'école à 15 ans. Je n'ai pas vraiment eu une éducation intellectuelle, philosophique ou littéraire. C'est grâce à mes rencontres avec Philippe Tian, qui écrit mes livres, bien entendu. Philippe, il écrit mes livres et mes chansons. Et Martin Souter, un écrivain suisse, qui écrit aussi pour moi. Et mon premier manager, Martin Hess, qui est un grand lecteur, parce qu'il a eu, comment s'appelle cette maladie, Zauberberg, Thomas Mann, à Davos, quand ils sont allés respirer. C'est quoi le grand roman de Mann?
Ah, La Montagne Magique.
La Montagne Magique. Il y a eu cette maladie, mon manager, ça veut dire pendant 2 ans, il était enfermé dans un sanatoire et il a tout lu. Et qu'on a commencé à travailler ensemble, chaque soir, il m'a filé un livre et il a dit, jusque demain, tu l'as lu. Et j'ai commencé à lire à 25 ans, 4-5 heures par jour carrément. Oui. Et ça m'a donné une bibliothèque que j'ai toujours voyagé avec, mais là j'ai vendu la maison et la bibliothèque est maintenant dans des caisses, dans un garage à Montreux, si vous voulez tout savoir. Mais ce qui me plaît, monsieur Stanislas Rigaud, il a le même nom que ma compagne, comme ça je suis un peu chez moi aussi.
Voilà. Ça vous a donné une bibliothèque de lire tous ces livres, mais qu'est-ce que ça vous a donné d'autre dans la tête, évidemment?
Je pouvais discuter avec des gens. J'ai eu longtemps l'impression, pas seulement l'impression, je ne savais pas penser. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais j'aime bien la formule.
Oui, je ne savais pas penser jusque j'étais peut-être 29, 30 ans. Parce que penser, c'est une structure du cerveau qui est basée sur la littérature, je crois. Oui. Et grâce à ces livres, je pense pas si mauvais aujourd'hui.
Génial, c'est magnifique quand même.
Oui, je crois, je suis heureux. Mais quand vous ne savez pas penser, c'est quand même grave. Mais là, je sais penser un petit peu.
Donc je disais, vous nous avez donné des livres desquels il fallait absolument qu'on parle.
Oui.
Simplement, j'ai été un tout petit peu étonné parce que vous l'avez dit, Philippe Tian a écrit quelques-unes de vos chansons.
Oui.
Je ne vois pas de Philippe Tian.
Ah non, je ne fais pas de pub pour les amis parce qu'ils ne font pas de pub pour moi non plus. Je vous ai choisi des livres que je suis conscient de les avoir lus 3 ou 4 fois chacun.
D'accord.
C'est le choix. Aussi, j'aime bien relire des livres. Et les Philippe Tian, je les lis une fois. Ouais. Non, je mens. Oh, j'ai lu 2 fois. Non, ces livres-là, c'est un peu celles-là qui m'ont... Comment on appelle ça? Ça peut vous arriver, finissez un livre, et vous avez l'impression d'être un autre humain, un petit peu. Et oui, les Philippe Tian aussi. Mais celles-là, ça m'a marqué, peut-être plus que...
Vous avez rapporté Moby Dick.
Qui est un cadeau de qui?
Philippe Tian.
Voilà, Philippe est là.
Qui fait 800 ou 900 pages, si vous l'avez lu plusieurs fois.
Oui.
Pourquoi Moby Dick?
C'est un cadeau de Philippe. Quand j'ai rencontré Philippe, je n'ai pas encore eu mon éducation littéraire. Ça veut dire que j'ai très vite lu un livre de lui parce que c'était une rencontre télévisée avec Antoine Decaune, qui est un grand lecteur, qui me file beaucoup de livres aussi. Et je rencontre Philippe et je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu. Et ce n'était même pas Betty Blue, qui s'appelle en français 37 heures le matin, que j'ai lu en voyage à Biarritz. J'ai lu le prochain qui s'appelle Maudit Manège. Et c'était un des premiers livres et j'étais très honnête avec lui. Je disais, la littérature, ce n'est pas un terrain où j'ai passé beaucoup mon temps de lire des notices, des synthétiseurs. J'ai construit aussi avec mon père des boîtes à rythme et des synthétiseurs. J'étais vraiment un nerd. Je lisais les modes d'emploi pour faire de la musique avec ses premiers ordinateurs, synthétiseurs. Et Philippe, quand je suis parti, il m'a filé ce livre. Et mon prochain voyage était au Québec, Tadoussac, où il y a des baleines. Et j'ai pris le hasard de faire ce voyage et j'ai commencé à lire et c'est un tremblement de terre ce livre. Je ne l'ai pas encore digéré, c'est pourquoi je le lis plusieurs fois. Vous êtes prêts? J'improvise?
Oui.
Parce que je pense à ma façon. Je l'ai compris quand j'ai découvert et fait un travail sur Jean-Jacques Rousseau. En Suisse, c'était un concours de l'État suisse, de la culture suisse, de faire un travail sur ces 200 ans de blablabla. Et je m'inscris avec un faux nom.
Ah oui?
Parce que je suis grandi à côté de l'île de Saint-Pierre, où il a fait la cinquième promenade du promeneur solitaire. C'est comme ça en français?
Oui, rêverie d'un promeneur solitaire.
Et je connaissais très bien cette île et ça m'a toujours fasciné, ce penseur qui était sur cette île. Et je suis allé vivre sur cette île et j'ai commencé à lire. Et bien entendu, il y a l'eau et bien entendu, j'ai eu Moby Dick. Et tout à coup, j'ai fait un lien qui est totalement pas professionnel, qui est totalement pas littéraire, que dans Rousseau, tout est bon. On est bien, on est comme l'humain ou la nature est bonne. Et après,
avec on est perverti par la société. Quoi.
Voilà, je crois que c'est ça sa pensée. Et dans Moby Dick, tout est mauvais.
Ben oui, parce que c'est pour ça que je suis un tout petit peu étonné. Moby Dick, c'est un grand classique. Et c'est souvent le bouquin préféré de beaucoup de gens. Mais c'est vrai que ce n'est pas une histoire facile, parce que c'est l'histoire d'un baleinier, le capitaine Ahab, qui cherche une baleine qui est en fait son pire ennemi. Il veut se venger, il la cherche partout. Et c'est une histoire quand même de haine et d'obsession de l'ennemi, quoi.
Oui.
Qui se transforme au fur et à mesure, mais quand même.
J'aimais bien faire ce lien entre.
Pour quelqu'un qui chante pas d'amis comme toi, c'est.
Moi, elle m'effraie ce livre profondément. Je veux être dans l'équipe de Rousseau. J'ai l'impression que. C'est... Ok, j'y vais là.
Ouais,
je fais un deuxième.
Ah ouais. Allez.
Improvisation. Je crois que ce qui nous explose à la gueule avec la nature, ça veut dire avec le climat, avec si vous avez vécu avec comme moi ce dernier été, je crois que la nature va prendre la forme de Moby Dick. Il y a une espèce de vengeance qui se prépare et pour moi, oui, la nature va nous hanter. Oui.
Un combat homme-nature, quoi.
Oui, et que j'aimais pas. C'est un peu les Américains, ils sont allés là-bas. Ok, on évite. Déjà, on range le problématique des Amérindiens, je crois, comme ils les appelaient. Quand ils sont... et puis, on devient les maîtres de ces pays. C'est un peu cette attitude américaine qui est aussi dans ce livre, qui est compréhensible. Dans le temps, c'était vous avez un fusil et puis vous commencez à marcher. Moi, non, ce n'est pas ma vision de la nature et du monde. Et ce livre me trouble profondément et c'est un cadeau de Philippe. J'ai une très belle version en anglais.
Et là, il est libretto, il est déjà très joli aussi. Écrit.
Non, la baleine, elle est noire.
Oui, normalement, elle est blanche. Oui.
Que je trouve aussi assez intéressant.
C'est vrai que c'est étonnant.
Que le choix, pour une fois, elle est blanche, la baleine. Oui. Qui est très important. Ici, elle est...
Vous dites que vous
c'est
l'avez
foutu, cette version, c'est noire.
Vous dites que vous l'avez en anglais.
Oui, je l'ai lu en anglais.
Et justement, je voulais en parler parce qu'il y a un autre livre là que j'adore de Raymond Carver qui s'appelle Les vitamines du bonheur. Mais quand vous avez donné les titres de livres à Stan Rigaud, vous lui avez dit je voudrais Cathédrale de Raymond Carver. Et il a cherché partout. Et quand je suis arrivé un peu avant vous, il m'a dit j'ai tout trouvé, mais j'ai pas trouvé Cathédrale de Raymond Carver. Je connais pas, j'ai jamais vu. Et en fait, c'est la version originale qui s'appelle Cathédrale.
Oui, je l'ai lu aussi en français une fois. Et je préfère. Oui, je lis normalement les originaux ici. Sur tous ces livres, oui, je les lis. Cathédrale de Raymond Carver.
Raymond Carver, ce livre-là en particulier, mais souvent chez Raymond Carver, ce sont des nouvelles.
Oui.
Et bon, celui-là, c'est le plus connu.
C'est le plus connu en France aussi ?
Sans doute.
Cathédrale, oui.
Okay. Et moi, dedans, il y a ma nouvelle préférée au monde qui s'appelle Petite douceur en français. Je sais pas
avec
comment
Scotty.
Elle s'appelle. Avec Scotty.
Le gâteau, oui. Ouais, ouais.
Vous nous racontez ? Et pourquoi vous aimez Raymond Carver et ses nouvelles ? Et est-ce que vous aimez Scotty, vous aussi ?
Oh là là ! Oui, je crois Scotty, c'est aussi. Je le lis, ça fait 30, 40 ans. J'espère encore de bien.
Je le raconte rapidement, mais
non,
c'est.
Non, mais je tente, c'est quelqu'un qui demande un gâteau d'anniversaire pour Scotty. Je me souviens toujours de ce nom, pour Scotty. Et puis la personne ne vient pas le chercher. Et le, comment on appelle ça ?
Le pâtissier.
Le pâtissier, pas le boulanger. Le pâtissier. Il est plutôt fier de son travail et ça connaissait les mecs, que la personne ne vient pas le chercher. Il commence, si mon souvenir est bien, presque à harceler la personne qui n'est pas venue.
Ah oui, parce qu'il a marqué Scotty sur le gâteau, il ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Et puis, il harcèle jusqu'à ce que cette personne vient et il explique que Scotty est mort. Et tout à coup, et c'est toujours chez Raymond Carver, cette, voilà, la baleine, la haine, la séparation, il si je m'en souviens bien, il s'assoit à une table et il parle. Et c'est toujours chez Raymond Carver. À un moment, on cherche un café, on parle et il y a une.
Et c'est magnifique.
C'est magnifique. Ouais. Et il y a une version, si je m'en souviens bien, d'un de mes chanteurs préférés country qui s'appelle Lyle Lovett, qui joue le rôle du pâtissier, si mon souvenir est bon. J'ai jamais vu le film, mais voilà.
Et oui, parce que la maman appelle pour commander le gâteau. Pour Scotty, il faut le marquer sur le gâteau. Il dit, oui, ben vous venez le chercher parce que ça m'arrive souvent qu'on ne vient pas le chercher, après je ne sais pas quoi en faire. Mm-hmm. Scotty part à l'école, il se fait renverser par un bus, mm-hmm. les parents sont à l'hôpital, et quand ils rentrent chez eux, ils se font harceler au téléphone par ce pâtissier mm-hmm. très méchant. Mais ça se transforme au fur et à mesure, et les relations humaines prennent une autre dimension.
Ce qui est beau, après, c'est comme, je crois, est-ce que c'est aussi un titre de Carver ? Ce que les gens se disent assis à une table, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est ça qui me touche à la fin, j'ai lu. Les gens s'assoient ensemble. Une table, et il.
C'est très très beau moment.
Ouais. Ouais. Et aussi, c'est court, c'est du songwriting, c'est tout ce que j'aspire un peu de prendre une.
Oui,
une
c'est
idée.
Un peu des chansons en fait.
C'est des chansons, ouais. Non, mais, c'est plus que des chansons.
Mais alors, c'est étonnant encore. Parce que vous me parlez de Moby Dick qui est un roman très très long, sur un temps long, où on est longtemps avec le livre. Et puis ensuite, on passe à Raymond Carver qui sont des nouvelles courtes, même si ce n'est pas de nouvelles très courtes, mais c'est une trentaine de pages à chaque fois.
On peut aller plus court encore si vous
voilà,
voulez.
Voilà, c'est ce que j'allais y venir, mais magnifique transition.
Eh oui.
Ben, dites-nous.
On est professionnels, nous. Les haïkus, anthologie de poèmes courts japonais. En plus, c'est la version que j'ai plusieurs fois. Je crois que je l'achète beaucoup. Les haïkus, vous savez pourquoi j'ai commencé à lire les haïkus ?
Qui sont des petits poèmes japonais.
Oui, pardon. Normalement, c'est trois lignes. Il doit avoir le printemps, l'automne ou comment on appelle ça, les saisons. Des animaux marchent très bien aussi. Mm-hmm. Ça veut dire que
c'est très naturel.
Et ça doit se rimer. Normalement, c'est cinq lignes, je ne sais plus.
Ça répond à un rythme très précis qu'il faut respecter, quoi.
Ce qui est très japonais, ça veut dire que le cadre est si restreint que l'art, si elle arrive, est encore plus sublimé. Je crois que c'est comme le contrepoint dans la musique classique, si on regarde ça. Moi, j'ai lu ça parce que sur les tournées, je ne suis plus arrivé de lire des romans. J'ai tout lu de Carver, de Brautigan et de Fante, ça veut dire les choses assez courtes, je les ai tout lues, de Bukowski. Et j'ai commencé à lire. Les poèmes, que je continue de. Si je vais dans une librairie, normalement, je vais vers les poèmes. Et pour une simple. Je descends de scène, je vais à l'hôtel, je ne peux pas m'endormir. Je lisais dans le temps des poèmes ou des haïkus. Aujourd'hui, on regarde sa page Instagram. C'est un peu la même chose. Hein.
Est-ce que vous nous liriez un haïku ?
Je ne sais pas lire. Je connais un par cœur. Jump, splash, a frog. C'est une version anglaise. Sur le front des falaises, les sols
reverdis. Dessinent des sourcils.
Oh, wow, non, je prends autre chose. Le sol, c'est quoi ?
Le sol, c'est les sols pleureurs, vous savez, c'est les grands arbres comme ça qui tombent.
Ouh, ça c'est joli. Dans les jeunes herbes, le sol oublie ses racines. Voilà, boum. Imaginez et vous des chansons comme
vous
ça.
Dites
oui, mais jump, leap, jump, frog, splash, c'est des choses super courtes.
Et vous en écrivez?
J'ai tenté de écrire des haïkus et finalement j'ai trouvé une façon d'écrire de la poésie parce que c'était le début de l'internet et j'ai trouvé un haïku qui était très troublant et on m'a dit que c'est mal traduit par le japonais. Et j'ai dit mais comment? Non, c'est un allemand qui a écrit un haïku en allemand qui était traduit en anglais et à la fin traduit en japonais et le retraduit en allemand était super poétique. Et une fois, j'ai commencé à écrire des chansons moi-même, où j'ai fait ça. J'ai laissé la machine mal traduire. Et s'il y a eu une image poétique, je l'ai découpée. Maintenant, ils sont beaucoup trop bien, les traducteurs sur Internet. Ils traduisent vraiment ce qu'on veut dire.
C'est intéressant, ça. Si on prend un poème, qu'on le traduit dans une langue, puis dans une autre, puis dans une autre, puis qu'on le retraduit dans la langue originelle, on n'aura pas du tout le même poème.
Oui, parce qu'on travaille avec des métaphores, des images, des... Ce n'est pas de la littérature. Mais
ça me donne une idée.
Je crois que c'est encore possible aujourd'hui. Mais ils sont devenus trop bons, les traducteurs. Ouais.
Joseph Roth, La marche de Radetzky. Je n'ai jamais lu.
Ça
pourquoi vous l'avez choisi?
Cadeau. J'ai reçu d'une très bonne amie. J'étais dans un lit d'hôpital pour un certain temps. Et cette personne a pensé que ça me plairait. Et j'ai commencé, je n'ai pas du tout aimé le ton au début. Parce que c'est une littérature un peu datée allemand. Et tout à coup, j'ai compris que c'était un choix de prendre ce langage pour dire au revoir à une Europe fascinante. On parle de l'Autriche-Hongrois. On parle tout juste avant la Première Guerre mondiale.
L'Autriche-Hongrie.
Oui, je ne suis pas un grand fan de... On parle de l'Ukraine, je crois, si je me souviens bien aujourd'hui. Il est... la famille de l'héros est à Odessa, je crois. L'Ukraine est très, très présente dedans. Comment je peux vous dire pourquoi ça m'a... Déjà, c'est si bien écrit. Et le storytelling, c'est... Ça, j'arriverai jamais dans ma vie d'avoir une histoire de famille, mais qui traverse ce que Mann a fait aussi, qui traverse nos époques, qui
J'étais pas juste fasciné sur l'histoire de la famille, quoi, qui permet de faire un portrait de l'époque en même temps.
Faire un portrait de l'époque, proposer un futur imaginaire sur l'Europe qui est parfaitement arrivé. Dedans, faire des portraits de personnages qui sont comme des haïkus, quoi, d'une précision. Moi, c'est ça la littérature. Ça vaut vraiment la peine. Après, à la fin, c'est pas vraiment gay. Et il y a cette... Comment je peux vous dire? Je l'ai lu aussi un peu avant la pandémie. Et dans la pandémie, on a eu ce sentiment qu'il n'y a plus de futur. Tout est un présent qui se répète et qui se ralentit bizarrement. Et le temps de ce livre a ça. Je l'ai choisi parce que je n'aime pas trop cette littérature, normalement.
Ça vous a surpris?
Par contre, ce livre-là était... De temps en temps, c'est bien d'être forcé. J'étais à l'hôpital, ça veut dire que je ne pouvais pas acheter un autre et j'ai lu ce qui était là.
Non, mais c'est mystérieux aussi. Moi, je passe mon temps à demander aux gens pourquoi ils aiment tel ou tel livre. Parfois, il n'y a pas de réponse. Hein. Et alors, Sophie Cal, c'est le dernier, chez Actes Sud, des histoires vraies. Pourquoi Sophie Cal? Et c'est un très, très beau livre, petit format, mais avec des illustrations, des photos magnifiques. C'est le même que vous avez chez vous?
Je crois que j'ai toutes les versions parce que ce qui est... Ce que Sophie fait, je crois, je connais un peu Sophie Cal, personnellement. J'ai vraiment la chance de l'avoir rencontrée et j'oserais dire être dans son cercle d'amis. Ce livre, il est évolutif. J'ai la première version, elle ajoute des histoires dedans. Ça veut dire qu'elle fait une réédition. Et la façon comme elle les conçoit, parce que c'est un très beau livre que vous avez vu, tout est choisi, tout est très très attentif. C'est une femme qui a
des textes très très courts encore.
A fait attention à tout. Elle veut faire des œuvres d'art que tout le monde peut acheter. Voilà. D'avoir un Sophie Cal au mur, nous deux, ça va être un peu chaud. Mais ses livres sont des œuvres d'art pour elle. Et les histoires courtes, c'est... Je crois si c'est entre les haïkus et Raymond Carver, c'est écrit sans émotion, si j'ose dire, mais la finalité de ce qu'elle décrit est plein d'émotions. Et je trouve il y a une espèce de distance au début des histoires. Et ce qui est très effrayant, et c'est vraiment des histoires vraies. Chaque fois, je doute.
C'est des histoires vraiment vraies ?
Oui.
J'en lis une.
Allez-y.
La lettre d'amour.
Beaucoup mieux que moi. Allez-y.
Sur le bureau traîne négligemment depuis des années une lettre d'amour. Je n'avais jamais reçu de lettre d'amour. J'en commandais une à un écrivain public. Je reçus 8 jours plus tard une belle lettre de 7 pages, écrite en vers, à la plume. Elle m'avait coûté 100 francs. Et l'homme disait, moi, sans faire un geste, j'ai été partout où vous alliez.
Voilà, Sophie Calle. Voilà.
Et fin de l'histoire, quoi.
Oui.
C'est un peu de la micro-fiction, c'est génial.
Ouais. Ça ne s'arrête pas. Chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire qui lui touche, elle met dedans.
Et comment vous faites pour retrouver vos livres s'ils sont dans les cartons, là ? Ça ne vous manque pas ? Vous les rachetez ? Vous faites comment ?
Oui, ça m'arrive. Et aussi mes disques, il y a quelques rares vinyles, et puis le vinyle ressort. Oui, oui, je le rachète. Mais je suis très honnête avec vous. J'ai arrêté vraiment. Je ne lis plus de romans, sauf Philippe Thion et Martin Souter. Et le Helbeck, il faut le lire. Autrement, je trouve, je ne lis plus le roman, je lis beaucoup des choses philosophiques. Ouais. Mais je trouvais ça un peu chiant de raconter ça.
Vous y reviendrez.
C'est une autre émission. J'ai vraiment une tendresse inouïe pour toucher le livre, le sentir, spécialement les livres allemands. Il a raison, Helbeck, que les livres allemands sont différemment. Mais
l'objet livre.
On voit moins s'ils sont lus. Parce que les livres français, il fait des... Comment on appelle ça, ce que j'ai dans le visage,
des rides.
Des rides, voilà. Ça fait des rides si on l'a lu. Et en livre allemand, on ne va pas s'il y a des rides. Bien entendu, de temps en temps, je note des choses dans le livre avec du crayon parce que je veux aussi l'effacer. Je trouve que c'est un peu violent. Et j'adore reprendre des livres que j'ouvre et je retrouve là où j'ai noté quelque chose.
Parce qu'en vrai, vous effacez jamais. On n'efface jamais quand on a écrit au crayon.
C'est vrai. C'est vrai, on aurait.
Mais on pourrait.
On pourrait, ouais. J'écris tout petit, je ne peux pas lire. Non, il me manque les livres, oui, il me manque. Mais je n'ai plus de maison, je n'ai plus d'appartement. Peut-être si quelqu'un a un appartement pour moi, je pourrais remettre les livres. Mais il faut un très grand appartement parce que c'est un peu cette taille de cet espace ici.
Là, on est dans la grande librairie Lamartine, ouais. Je précise.
Donnez-moi un grand appartement, s'il vous plaît. Et merci. Un piano, j'amène aussi un piano.
Merci beaucoup, Stéphane Escher.
J'espère que je n'ai pas raconté trop de conneries.
Oh non. Et merci beaucoup à Stanislas Rigaud, librairie Lamartine, pour son accueil. Merci beaucoup.
Et son chauffage.
C'est vrai qu'il fait chaud. Et je rappelle, Aude, O-D-E, c'est le nouvel album forcément magnifique de Stéphane Escher. Merci à lui. Dans un instant, lu et approuvé, l'équipe de chroniqueurs de l'émission vous fait des propositions de lecture. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Clémence Pouletti, journaliste littéraire pour un roman, et notre libraire de la semaine, c'est le magnifique Olivier Gallet, et librairie Les mots et les choses. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Bonjour à tous les trois.
Merci. Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
On commence avec vous justement, Olivier Gallet, roman.
Exactement, c'est un roman de Xavier Leclerc, c'est son... troisième roman, dans son deuxième chez Gallimard. Il avait déjà un roman sur la figure de son grand-père qui s'appelait 120 francs. Et donc là, son nouveau livre s'appelle Un homme sans titre. Et c'est édité chez Gallimard. Et donc en fait, c'est avant tout un portrait du père de Xavier Leclerc. C'est quand même un récit, mais ça se lit comme un roman. Et en fait, on va découvrir la vie du père de Xavier Leclerc, qui a quitté l'Algérie en 1962 pour s'installer en France. Et on va découvrir justement tout le parcours de cet homme, donc ses zones d'ombre aussi, mais aussi ses zones où il passait des très bons moments avec son fils. Il y a aussi un portrait de l'auteur lui-même. En fait, il explique aussi, parce qu'en fait, il a un nom arabe, Al-Taïb, et en fait, il a choisi de le franciser Et dans ce texte-là, justement, il explique, je ne vais pas tout dévoiler, il explique justement pourquoi il a choisi de franciser son nom.
Il s'appelle Xavier Leclerc.
C'est
aujourd'hui.
Ça, exactement. Mmh. Et El Taïb, ça veut dire Leclerc en français. Et moi, ce qui m'a surtout marqué quand je l'ai lu cet été au bord de la piscine, c'est
nostalgie.
C'est important.
C'est en novembre, Olivier.
Et ben, c'était son écriture. Franchement, elle est remarquable, elle est touchante, elle est vibrante, elle est tout simplement incroyable.
Et pourquoi un homme sans titre ?
Un homme sans titre, ah oui, c'est parce qu'en fait, son père, quand il arrivait en France, il n'avait pas de papier d'identité. Enfin, c'était voilà, il avait pratiquement pas grand-chose. C'est quelqu'un, donc son père aussi, qui a grandi dans la misère, comme en fait aussi, finalement, aussi la famille de Xavier. Mais je voulais mettre un accent sur l'écriture vraiment de Xavier Leclerc. Et en soulignant aussi qu'il a eu il a été lauréat du prix de l'Académie des Lettres et des Sciences des Arts de Caen. Et c'est un texte qui est aussi empreint de l'écriture de Camus. Il est très proche de Camus. Et quand j'ai discuté un peu avec lui cet été, justement, par rapport à son roman, j'étais dans le Luberon et il m'a dit que, justement, le Luberon, c'était la deuxième terre d'accueil d'Albert Camus. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, je ressentais du coup cette chaleur-là. Et ça se passe, et le tout début du roman se passe en Abyssinie. Et du coup, je ressentais vraiment bien cette chaleur algérienne.
Et je rêve, vous avez des antisèches sur votre iPhone.
Ouais, j'ai des antisèches, ouais. Parce que et surtout le titre, j'arrêtais pas de le confondre, donc du
Mais
coup,
oui.
Voilà, je suis obligé de.
Mais surtout que après le grand-père 120 francs, il aurait pu faire le père 120 euros.
Oh.
Wow.
Moi, je trouve ça hyper drôle, merci. Pendant toute la chronique, j'y pense.
Un homme sans titre, Xavier Leclerc, c'est chez Gallimard. Bah justement, Clémence Pouletti, plutôt que de faire la maline, de quoi vous nous parlez ?
Ah oui, alors d'un livre qui ouvre, je mens la maline, oui. Oui, c'est parce que j'ai lu comme un film, c'est vrai. Alors, donc, je vais vous parler de John Wainwright.
Wainwright,
yeah. Ça s'appelle Les Trois Meurtres de William Driver. Ah, faut pas que je dise de bêtises dans ce cas. Alors, John Wainwright, on le connaît un peu finalement en France. Ouais. Il a pourtant vécu tout le XXe siècle, né en 1921, décédé en 1995. Mmh. En 1982, cet Anglais publie Les Trois Meurtres de William Driver et, merveille, en 2022, Sonatine Édition décide de le rééditer.
Seulement 40 ans plus tard.
Ouais. Mmh. Décide de le rééditer et traduit par Clément Baude. On dit Baude ou Baudet, je m'excuse, pardon. Je crois que c'est Clément Baude, il n'y a pas d'accent. Bon, l'histoire, elle est très glauque. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle William Driver et qui est accusé du meurtre de trois jeunes prostituées. Et non seulement il les aurait tuées, mais en plus, elles sont éventrées lorsqu'elles sont retrouvées, donc c'est très sale. Et alors, dans les 30, mais je dis bien dans les 30 premières pages, on assiste donc au tribunal, la condamnation.
Il ne se défend pas vraiment.
Il se défend, non, alors il ne se défend même pas du tout. Il assiste donc à sa femme ensuite, lui il va en prison. La femme, elle tente de suicider. Les deux enfants, Anne 20 ans, Robert 18 ans, ils sont complètement paumés, tu m'étonnes.
Oui, ça fait un petit choc.
Sa sœur, Lise, dans le manoir, essaie de tout mettre en ordre comme si rien s'était passé, comme si tout allait bien. Sauf que sa sœur tente de suicider, elles vont à l'hôpital. En même temps, à l'hôpital, elles reçoivent un coup de fil d'une certaine femme qui dit détenir la vérité sur au moins un des trois meurtres.
N'en dites pas trop.
Ouais, je ne dis rien de plus. Tout ça en moins de 30 pages, ce qui est quand même hallucinant. Donc moi, j'étais complètement haletée. C'est-à-dire, j'étais
haletante.
Oui, haletante. J'étais haletée aussi. Non, un peu les deux.
D'accord.
Et puis, non, j'étais vraiment prise. J'ai été prise par le sujet. Puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a des rebondissements absolument tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Moi qui suis très post-it, très prise de notes pendant les livres, j'ai commencé, puis à un moment, j'ai arrêté parce que je voulais absolument savoir. Il y a un médecin qui débarque, donc le médecin de Carole qui a essayé de se suicider, qui lui est un peu amoureux de Lise, mais il ne faut pas trop en dire, la petite sœur, qui débarque là-dedans, on ne sait pas, mais il a un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer.
C'est un roman policier à l'ancienne.
C'est exactement ça.
Bien
c'est
fait
ce qu'on
et tout.
Aime,
d'ailleurs, c'était un des écrivains préférés de Simenon.
En effet.
Et surtout, le lapsus est justifié parce que
oui.
Un des romans,
oui.
voilà, a été adapté au cinéma par Claude Miller, c'est Garde à vue.
Et voilà.
Tout à fait.
Inoubliable.
Bravo Clémence Pouletti. John Wainwright, Les trois meurtres de William Driver, c'est chez Sonatine. C'est à vous Sébastien Bordenave.
Eh ben, une BD déconcertante aujourd'hui, d'abord parce que jamais je n'aurais pensé sourire en lisant le récit des attentats du 13 novembre dont c'est le triste anniversaire aujourd'hui. La BD commence au Bataclan le 13 novembre avec les Eagles of Death Metal. Le récit débute par deux détonations. La première phrase de l'ouvrage c'est « Je m'appelle Sophie et les deux balles que vous venez d'entendre, elles étaient pour moi ». La BD s'appelle « Après le 13 novembre » et raconte effectivement ce qui va se passer pour Sophie vraiment après le 13 novembre. La vie quotidienne après, les rendez-vous médicaux après, où elle observe ses radios, elle dit en les regardant « Mais pourquoi j'ai un suppositoire là ?» Le docteur lui explique « Non, c'est la balle. Soit on ne fait rien et vous vivez avec, soit on vous brise les reins et on vous la retire. » Sophie raconte aussi les réseaux sociaux sur Twitter. Suite à son témoignage de rescapé, elle gagne en une soirée 9000 abonnés. Waouh ! Puis elle reçoit des messages du style « Tu mens, tu n'étais pas au Bataclan, tu veux juste qu'on te plaigne. » La décision est prise, celle de désactiver son compte. La BD est celle d'une reconstruction. Sophie raconte des séances hallucinantes chez les psys, considérés comme victimes de guerre. Ils sont pris en charge par l'État. Elle va en voir 5 différents en un an. Le premier s'endort pendant son récit. Le deuxième lui dit de s'estimer heureuse d'être vivante et lui conseille de regarder des films de Chaplin. Le numéro de téléphone de la cellule des soins psy qu'on a donné à Sophie en cas de stress intense lui raccroche au nez un jour en lui disant « Bah, rappelez-nous quand vous serez calmé ». La défaillance de l'État fait mal. Le plus terrible dans cet après, ça va être la bataille juridique que Sophie va devoir mener au moment où on va estimer la somme qu'elle va percevoir au regard du traumatisme subi. Alors que Sophie raconte l'attentat, la personne qui l'écoute la coupe. Quelle relation vous avez avec vos parents? Vous êtes boulimique? Vous êtes anorexique? Vous avez bu des bières pendant le concert? 3, 4, ça vous arrive souvent de boire 3, 4 bières par jour? Toutes les épreuves que Sophie encaisse après l'attentat laissent quoi? Avec un petit fond de colère aussi, je ne spoil pas, mais depuis Sophie est devenue maman. Et comme elle le dit elle-même, une nouvelle page peut être écrite. Après le 13 novembre de Sophie Parra, David Mourier et Géry, publié chez Une Case en Moins, c'est une BD qui inspire un immense respect devant le courage non moins immense de ce témoignage.
C'était quoi la musique qu'on écoutait?
C'était Eagle of Death Metal.
Okay.
Et alors, Sophie est une amie avec laquelle donc, j'ai échangé et je la trouve extrêmement courageuse. C'est vraiment le mot. Tous les jours, elle se bat parce qu'elle en prend plein la tête sur les réseaux sociaux. Depuis, elle s'y est remise.
Oui, oui. Et le récit est extraordinaire.
Elle est extraordinaire.
Après
est extraordinaire.
13 novembre, vous avez une citation quand même, Sébastien ?
Oui, une citation de Aya de Yupougon. Il y a le tome 7 qui est sorti. La BD se passe à Abidjan. Il y a plein de proverbes africains, dont celui-là que j'adore. Pas besoin d'eau potable pour éteindre l'incendie.
Parfait. Merci beaucoup. Clémence Pouletti.
Ah oui, Les trois meurtres de William Driver de John Wainwright.
Et Olivier Gallet ?
Eh bien oui, c'est Un homme sans titre de Xavier Leclerc.
C'est chez Gallimard. Merci beaucoup à tous les trois. Et Clémence Pouletti, je rappelle qu'on vous retrouve sur YouTube. Les mots et les choses à Boulogne-Nord. Olivier Gallet, ça c'est votre librairie. Et je rappelle, notre invité, c'était Jean-Jacques Greff pour la nouvelle traduction de Deux grandes espérances, le roman culte de Charles Dickens chez Tristram. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpeuch pour la programmation musicale et à la réalisation Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.